Vous écoutez RTL.
RTL.
Au pays d'Agraragon, il y avait une fille qui aimait le gaz citron et vanille.
Non, non, je ne veux pas de vanille, je déteste la vanille, je préfère la glace au citron. Aussi je l'ai qu'un glaçon qui fait froid le long du cou et qui fait des frissons partout, tout, tout.
La curiosité est un vilain défaut.
Moi, ce que j'aime bien, c'est les glaces à la vanille, les glaces à la fraise et les glaces au chocolat, mais celle que je préfère, c'est les glaces au citron.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Une glace au citron.
Nicéma, Henri Dez, Bobby Lapointe, on aime tous les glaces, les sorbets, les crèmes glacées.
C'est quoi votre parfum préféré?
Moi, c'est pistache.
Ah, c'est drôle, pistache, c'était le parfum préféré de mon papa. Moi, c'est la fraise.
C'est intéressant.
Voilà, ça passionne évidemment nos auditeurs.
N'hésitez pas sur RTL.fr à nous donner vos parfums préférés.
Voilà qui lance bien la séquence, mais vraiment. Voilà.
Et allez. Vous savez qu'on en consomme pas mal des glaces. On n'est pas les plus grands mangeurs de glace hein, en France. En Europe, pardon, c'est plutôt les Italiens et les Suédois. Mais en France, on en consomme jusqu'à 6 litres par an et par personne, ce qui est quand même pas mal. Mais qui a eu l'idée d'inventer cette friandise? La réponse avec Michel Barrière. Bonjour.
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 On est ravis de vous retrouver au micro de la
Moi
curiosité.
De même.
Vous êtes historienne de l'alimentation. L'histoire des glaces, elle débute quand? Dans l'Antiquité?
Alors écoutez, les premières glacières, on peut les trouver 2000 ans avant notre ère, quelque part du côté de la Mésopotamie. Alors bon, je pense pas qu'à l'époque on faisait ni cornets, ni glace. Mais c'est vrai que les premiers dont on sait qu'ils en consommaient, les Romains, notamment Néron, qui avait l'habitude de recevoir ses invités avec des mélanges de fruits, avec de la glace ou de la neige pilée, qu'il faisait venir essentiellement de l'Etna, donc de Sicile.
C'était la région de fabrication parce qu'il allait chercher de la neige sur les plats,
voilà,
c'est ça?
Exactement. Ouais. Alors aussi, dans les Apennins, enfin, bon, il y a tout de même des montagnes en Italie.
Oui.
Hein, mais voilà.
C'était transporté comment, toute cette glace?
En bateau. Ouais. En bateau et en faisant très attention avec des sacs de jute entourés de sel. Enfin voilà, c'était vraiment très très précieux.
Une fois qu'elle est arrivée à Rome, elle était conservée comment cette glace qui venait des Alpes?
Il y avait des puits à neige qui pouvaient être, alors c'est de la terre ou alors maçonnée. Et vous savez, plus on va aller, plus on va sophistiquer cette manière de conserver la glace. Mais déjà les Romains donc avaient ces puits à glace.
Mais alors du coup, on ne mangeait de la glace que l'hiver?
Ben non,
on
c'était
réussissait
pas
à
drôle.
La conserver. Bah quand
oui,
même, quoi.
Bien sûr, justement, dans ces puits, on la tassait très, 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 très fort. Et ce qui fait qu'elle, justement, dans la terre, maçonnée, tout ça, ça permettait justement. Bah oui, c'était ça qui était sympa.
Bah oui,
d'avoir,
c'est
bien sûr,
sympa
de tout l'hiver,
par 3-4 degrés. Donc,
voilà, donc, et l'été, on allait chercher cette glace ou cette neige. Et c'est là qu'on l'a dégustée.
Donc, c'était pas que de sorbet, c'est ça
voilà.
Que vous avez
posé. On posait les mêmes questions en même temps, Philippine. C'était que des sorbets, il n'y avait pas de lait.
Oui, oui. Non, non, à l'époque, c'était. Si vous voulez, c'était des jus de fruits mélangés à de la glace. C'est un peu ce qu'on retrouve encore en Espagne, vous savez, les granizados.
Oui.
Voilà, bah, c'est un peu les héritiers très, très, très lointains de cette technique.
Mais ça se buvait ou ça se mangeait à la cuillère?
Ça se buvait, je pense que ça se buvait. Alors, j'y étais pas, je peux pas vous dire précisément.
Ah bon?
Non.
Oh,
bah, alors, on arrête l'interview tout de suite. Franchement, Michel Barrière, on se demande même pourquoi vous êtes venu.
Ce mot sorbet, il vient d'où?
Alors, par contre, là, c'est un mot arabe, sherbet, charbat, parce que l'origine véritable, elle est vraiment alors Bagdad, Syrie, et vous savez toutes les steppes de l'Asie centrale également, les Ottomans qui adoraient les sorbets. Par exemple, au Xe siècle, les califes au Caire étaient très amateurs et il y avait, je crois, par jour 14 charges de chameaux qui apportaient au palais du sultan la glace ou la neige pour pouvoir faire les fameux sorbets.
Donc en Italie, vers les Ottomans, les Perses, etc. Chine aussi?
Oui, parce que si vous voulez, ce qui se passe en Italie, c'est après les invasions barbares, on oublie complètement. Mais par contre, la tradition, elle reste justement sur tout le pourtour méditerranéen. Ouais. En Chine aussi.
On dit que c'est eux qui avaient mis au point, les Chinois, une technique de congélation. Ils mélangeaient à la neige du salpêtre.
Alors, ça, de toute manière, c'est la technique obligatoire pour pouvoir conserver la glace ou la neige. Alors, je ne pourrais pas vous expliquer le processus chimique, mais ce que je sais, c'est que le salpêtre, c'est du nitre. Nitre, c'est vous savez, c'est ce qu'on trouve dans les maisons humides.
C'est quoi, un champignon, une céréale?
Non, c'est pas un champignon. C'est plutôt minéral, voilà. Mais par contre, si vous le mettez autour d'un récipient qui contient de la glace, ça va la maintenir dans son état.
Bah, j'essaierai à la maison tout à l'heure.
Un produit. Je viendrai manger vos
glaces. De luxe, non, mais je vous en proposais pas, Thomas.
Ah bon, d'accord.
Un produit. de Luxe-la-Glace que Catherine de Médici, soi-disant, adorait et aurait emmené dans ses bagages de l'Italie à la France. Est-ce que c'est vrai? La réponse dans un instant, les curieux. Allez, je vous offrirai une petite glace Mico tout à l'heure.
On se rapproche quand même.
Si votre défaut, c'est la curiosité, alors vous êtes bien cet été sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
Quand je serai grand, je t'achèterai tout ça. Eh ben, dépêche-toi.
Glace Mico, on les voudrait toutes.
La curiosité est un vilain défaut.
Des crêpes fourrées à la glace. Le mélange grisant du glacé et du brûlant. Pour vivre comme au cinéma.
Cassis, sorbet, Cassis.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Vas-y, coucou Lina.
La glace à truc.
Coucou Lina.
Michel Barrière, vous êtes historienne de l'alimentation et vous nous racontez l'histoire de ce mets glacé qu'on adore.
On raconte souvent, Michel Barrière, que les glaces sont arrivées en France grâce à Catherine de Médicis. Alors, on aime bien ici, dans la curiosité, chasser les idées reçues. Est-ce que c'est une idée reçue ou est-ce que c'est vrai ?
À moitié. C'est-à-dire que cette pauvre...
Demi-idée reçue.
Cette pauvre Catherine de Médicis, qui est arrivée tout de même en France à 14 ans pour se marier donc avec le fils de François Ier, qui était donc une petite princesse de rien du tout, hein, et en plus qui n'arrivait pas à faire d'enfant. Donc elle a été puissante bien après, oui, quand elle est devenue effectivement la reine mère. Hein, mais à cette époque-là, vraiment, non, on lui aurait vraiment pas fait confiance.
Ça veut dire qu'elle avait autre chose à faire que ramener une recette de glace.
Oui,
en Italie.
Voilà, parce que mais oui, moi je la vois toujours arriver. Elle a dans sa hotte, elle a les melons, elle a les artichauts, elle a les glaces. Non, faut
c'est
non,
la légende. Non, voilà, non, elle a autre chose à faire.
Alors c'est vrai qu'en Italie, on faisait des glaces, des sorbets. Donc bien sûr, elle en a mangé, c'est clair. Mais si vous voulez, à cette époque-là, il y avait beaucoup de Français qui allaient en Italie et qui en revenaient, notamment parce qu'il y avait les guerres permanentes avec Charles Quint, donc ça faisait beaucoup de mouvements. Hein. Il y avait aussi des commerçants. Donc voilà, le moment était mûr pour que on arrive à apprécier justement le froid. Et surtout, on a commencé à l'apprécier en buvant à la glace, c'est-à-dire en mettant de la glace dans le vin. Une pratique qui a été très décriée par certains médecins en disant « vous allez tous mourir si vous faites ça, vous allez attraper la lèpre, la peste ». Et puis d'autres qui disaient « non,
et
non,
tous
c'est
les verres
bien
de rosé que j'ai bu depuis le début.
Vous voyez un peu tout ce que vous... Tous,
voilà. Avec modération, évidemment.
C'est de la glace, la glace au vin.
Oui, voilà.
C'est bien, c'est ça. Voilà, donc on a commencé à boire frais. Et puis ensuite, bien sûr, sont arrivés également les sorbets. Donc, Catherine de Médicis connaissait, c'est sûr.
Et à la même époque, à la Renaissance, est-ce que justement en Italie, on en mangeait, c'était que les puissants ou tout le monde pouvait en manger des glaces dans la rue ?
Ça restait encore parmi les puissants. Ça va être que début XVIIe siècle, en Italie, on commence à trouver des boutiques dans les rues, dans les villes, qui vont en vendre.
On parle souvent de glace à l'italienne. Moi, je sais que c'est ma glace préférée. Vous savez, cette glace toute crémeuse.
En tortillon.
En tortillon. C'est pas une glace qui vient d'Italie, ça, si ?
Alors là, je pense que c'est une glace industrielle qui a été inventée. Alors, je pourrais pas vous dire quand, mais récemment, enfin quoi, récemment, il y a 40 ans, 50 ans à peu près. Hein.
Donc, c'est pas Catherine de Médicis qui
faisait, non, qui faisait les petits tortillons. Non, je crois pas.
Est-ce qu'on la stockait où, tiens, la glace ? Est-ce qu'il y avait, vous nous racontiez tout à l'heure, qu'on avait inventé, à l'Antiquité, c'est ça, des systèmes pour stocker la glace ? Comment on faisait à Paris à l'époque la Renaissance ?
Eh bien, même chose. Hein, on avait ces puits à glace, ces glacières. Et par exemple, on récupérait la glace sur la Bièvre et qu'on mettait justement dans ces puits. Et il y avait des lieux justement à Chantilly ou à la Glacière qui existent encore.
Le quartier du 13e,
voilà,
qui s'appelle la Glacière.
Exactement.
D'accord.
Et puis aussi, il y avait tout le quartier de Chantilly. Et c'était des charrettes qui ramenaient justement cette glace qu'on mettait dans ces puits maçonnés et qu'on gardait.
Alors, on parle beaucoup de sorbet. Mais moi, ma glace préférée, c'est quand même la glace à la crème. La crème glacée, cette crème, elle arrive quand dans la recette de la glace ?
Alors, c'est plutôt une histoire du 18e siècle. Hein. Disons qu'à la fin 17e, on commence à en
avoir. L'idée d'un chef, quoi, c'est ça ou...
Non, il ne faut surtout pas penser qu'une innovation culinaire soit le fait de quelqu'un. C'est souvent, à un moment donné, plusieurs, effectivement, qui vont commencer à se dire « Ah bah tiens, oui, on fait ça avec des sirops, avec des fruits. Et tiens, si on mettait un petit peu de crème. » Et puis surtout, cette période-là, c'est une période où la crème rentre en masse dans la cuisine. Parce qu'avant, on n'aimait pas les choses trop crémeuses, trop grasses, trop douces. À partir de 1650, on commence à arriver à ce goût-là. Et alors là, on en met partout. Hein, et commence... ces fameuses glaces qui sont guère différentes de celles qu'on mange aujourd'hui.
C'est-à-dire qu'il y a les premiers parfums qui arrivent avec la glace à la pistache, la glace à la fraise.
Ah oui, alors fraise, framboise.
C'est les mêmes parfums en fait, sauf qu'on rajoute de la crème.
Oui, mais sauf qu'on avait beaucoup plus de parfums à l'époque. Oui. Ah ouais.
Qu'est-ce qu'il y avait par exemple?
Il y avait girofle, safran, violette, jonquille, ambre, artichaut.
Rose peut-être aussi.
Bien sûr, mais bien sûr, artichaut.
Artichaut. Très bien, une glace à l'artichaut.
Ça, ça a été un des grands succès. Truffe.
Pourquoi ça a été abandonné? Ces parfums ont disparu? Parce qu'il n'y a pas vraiment de consommation et de marché pour ces parfums?
Si, si, c'était très, très consommé. Alors après, je pense qu'on est arrivé sur la vanille, sur le chocolat. Parce qu'à l'époque, les glaces au chocolat, il y en avait un peu, mais qui ne devaient pas être très, très sympathiques. 17e siècle, 18e, il n'y avait pas de glace à la vanille ni de glace au chocolat.
Ça a longtemps été le mets des puissants, des rois. Et puis les cafés parisiens s'en sont mêlés, ils l'ont mis à leur carte. Ça, c'est arrivé à quelle époque?
Alors, le tout premier, en 1686, donc, qui a été ouvert par un Sicilien, Procope, rue de l'Ancienne Comédie. Et c'est vrai que le lieu existe encore. Hein. Bon, maintenant, c'est devenu un restaurant, mais c'est un lieu mythique et extraordinaire. Et ça a été le premier endroit où on pouvait... Alors, il n'y avait pas d'alcool, il n'y avait pas de vin, pas de bière, pas du tout ce genre de... Mais du café, du chocolat, du thé...
Du sucré, quoi.
Alors oui, toutes ces boissons nouvelles, plus...
Ça ressemblait plus à un, pardon, je vous interromps, oui, à un salon de thé d'aujourd'hui, d'une certaine façon, est-ce qu'on peut dire ça?
Un petit peu, et qui très très vite a été investi par la bourgeoisie, par l'aristocratie aussi, et parce que justement c'était un lieu où on ne s'enivrait pas, mais où on discutait, où il y avait des journaux. Et on dit d'ailleurs que les cafés ont été un peu à l'origine de la Révolution française, hein, puisque c'était libre parole. Et en même temps, eh ben, on se mangeait les petites glaces, là.
Attendez, ça veut dire que Diderot, par exemple, qui fréquentait le Procope, on peut l'imaginer en train d'écrire l'encyclopédie d'une main et puis de l'autre, de déguster une glace?
Ah, mais complètement. Complètement, complètement. Jean-Jacques Rousseau, Voltaire. Et vous aviez les carrosses qui s'arrêtaient dans la rue et les dames qui n'entraient pas encore au Procope, elles tendaient une petite tasse, on allait leur servir, on leur rapportait, elles repartaient dans leur carrosse.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL. Vous écoutez RTL.
Lucas, tu veux pas une boule moca? Lucas, tu veux pas une boule moca?
RTL.
Moi j'aime mieux les glaces au chocolat poêle au bois.
Françoise, tu veux pas une boule framboise?
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Thérèse, tu veux pas une boule de fraise? Thérèse, tu veux pas une boule de fraise? Thérèse, non, je ne veux pas de boule de fraise. Et puis je n'aime plus la fraise, je préfère la glace au citron.
Eh bien, Sidonie, elle veut bien une glace à la vanille.
Oui, c'est vrai que c'était pistache, votre parfum préféré. En tout cas, les glaces aspirant Henri Dess et Bobby Lapointe, décidément. En tout cas, si vous êtes à table, vous reprendrez bien, grâce à nous, une boule de glace en dessert. C'est l'histoire des glaces, vous l'avez compris, et des sorbets qu'on vous raconte grâce à l'historienne Michèle Barrière. En France, la grande époque, c'est quoi? C'est la belle époque, justement, pour les glaces?
Ah oui, là, la diffusion, là, le peuple, les puissants, tout le monde est au régime glace, hein. Donc là, vraiment, oui, la belle époque. Puis vous avez des grands cafés qui s'ouvrent là sur les grands boulevards et où on vient déguster des glaces, notamment le café Tortoni, oui, qui était très, très à la mode. Et voilà, en famille.
Il existe toujours?
Non, hélas, ça aurait été un bel endroit à découvrir, mais non, il n'existe plus.
Mais ça veut dire que comme tout produit nouveau, il commence par être consommé par les riches, par les puissants, par les rois, et il se diffuse ensuite, c'est ça?
Bien sûr.
C'est toujours comme ça, que ce soit l'arrivée du café, l'arrivée du chocolat, ça a toujours fonctionné de la même
façon.
Et
en plus, là, on est à la fin du 19e siècle, et donc là, vous avez les processus industriels qui sont, ça y est, qui sont en route. Donc ça permet une production beaucoup plus grande, vous n'avez pas besoin que ce soit votre cuisinier, votre chef personnel qui vous les prépare.
Michèle, vous avez entre les mains une sorte de grimoire, un livre qui date du 18e siècle, il est écrit par qui?
Alors c'est François Massialo qui était un cuisinier du début du 18e siècle, cuisinier et aussi...
À la cour?
Alors, il était, c'était un cuisinier freelance, c'est-à-dire qu'il allait dans les grandes maisons pour justement des banquets, il était donc cuisinier, mais aussi auteur, et donc il a écrit des livres de cuisine, notamment celui-ci, Les Soupers du Roi, où il donne de moult et moult recettes de glace.
Et par exemple, la recette du sorbet.
Alors, la manière de faire le sorbet. Vous mettez dans une salbottière, parce que à l'époque, on ne disait pas sorbetière, on disait salbottière. Je ne pourrais pas vous dire. Ouais, c'est comme ça. Vous mettez dans une salbottière la liqueur ou le fruit que vous voulez glacer. Vous placez la salbottière dans un seau proportionné à sa grandeur, en mettant tout autour et dessous de la glace pilée très fin, mêlée avec du salpêtre ou du sel. Vous la tournerez sans cesse pendant un bon demi-quart d'heure jusqu'à ce qu'elle soit prise.
Un bon demi-quart d'heure.
C'est tout le temps qu'il vous faut, Thomas, pour me faire une glace.
Je ne sais pas si j'y arriverai, c'est pas beaucoup. Non,
mais moi, ça ne me semble pas beaucoup. Alors, je vais dire que je suis un petit. J'ai jamais fait.
Ou alors, ils étaient plus vigoureux que nous dans la façon
voilà,
de tourner.
Voilà, exactement, une poigne.
Qui a inventé la pêche mêle-balle, café liégeois, toutes ces glaces un peu élaborées, presque des mises en scène de crème glacée?
Ah oui, des mythes. Alors. Pour la pêche mêle-ba, c'est Escoffier. Escoffier, un grand chef donc, de la fin du 19e siècle, qui a beaucoup travaillé avec César Ritz dans la création d'hôtels comme le Savoy ou comme le Ritz à Paris. Et il était très mélomane. Et il avait une cantatrice, Nelly Melba, qui l'adorait, et australienne. Et c'était à l'époque où Escoffier était aux cuisines du Savoy. Et en 1896, Nelly Melba se produit dans Lohengrin. Lohengrin, vous savez, c'est l'histoire d'un cygne. Et donc, le lendemain, qu'est-ce que fait Escoffier? Il adorait cette femme. Il fait tailler dans la glace un cygne, merveilleux. Il met de la crème glacée à la vanille et des framboises pilées, enfin voilà, et avec un petit voile de sucre. Et cette recette, d'abord, Nelly Melba était absolument ravie, et c'est devenu, au cours des ans, vraiment une recette type d'Escoffier. Alors maintenant, on y met de la chantilly, on y met des amandes, ce qui est totalement ridicule.
Bah oui, ce serait dommage. L'industrialisation, pour terminer, ça va avec l'industrialisation générale, c'est-à-dire la glace, pour la glace aussi, c'est le 19e,
c'est ça ? Tout à fait, absolument. Les premières machines à fabriquer la glace, je crois que c'est 1850, mais la glace, vous savez, les gros pains de glace. Oui. Hein. Et puis après, bien entendu, tout ce qui est crème glacée va être pris par l'industrialisation. Et là, c'est le grand.
Et les Américains vont jouer un grand rôle aussi dans l'histoire de cette crème glacée, par exemple, l'Eskimo. C'est une invention américaine ?
Oui, oui, tout à fait, merci.
Merci
on
les Américains.
On a réussi à apprendre quelque chose à Michel Barrière, chouette.
Merci infiniment Michel Barrière, c'est un plaisir de déguster, de découvrir cette histoire des glaces avec vous. Je rappelle que vous publiez La France à table, c'est aux éditions Les Arènes et RTL. Et puis, vous publiez aussi un thriller gastronomique qui vient de sortir au livre de poche, Meurtre 3 étoiles.
Allez, on revient demain de 15h à 16h sur RTL pour les meilleurs moments de la curiosité. C'est le programme de l'été.
On vous racontera aussi la vie tourmentée de Billie Holiday.
Bon après-midi sur RTL. À demain, dans un instant, les grosses têtes.
Vous écoutez RTL.